Bonsoir, comment allez-vous? J'ai un copain de bistrot et nous échangeons tous les mercredis autour d'un café frites. C'est notre menu. Chocolat pour lui, il a 6 ans. Cet établissement fait les meilleures frites de France avec des patates grosses comme des maisons. Mercredi dernier, mon copain m'exhibe fièrement une médaille d'or. En carton, mais d'or quand même. Il m'explique qu'il existe aussi des médailles d'argent et de bronze, mais que lui a obtenu l'or. Après les félicitations d'usage, je lui demande pour quelle discipline il a obtenu cette haute récompense. Il me répond « rapidité à l'habillage ». « Ah bon? Chez toi ?» Je connais un peu ses parents, ce sont eux qui tiennent le bistrot. Levés à 4h, couchés à minuit, je ne vois pas bien quand ils auraient pu se lancer dans la fabrique de médailles d'or. Effectivement, il me répond « c'est à la piscine, avec l'école ». Je lui dis que son prof doit être sympa et malin. Mon ami me dit « moi aussi je suis malin ». Tu sais pourquoi je gagne ? Non, je ne me sèche pas. Ah, tu te rhabilles mouillé ? Ce n'est pas inconfortable ? Ça va. Le fait est que je n'ai jamais vu cet enfant enrhumé. C'est sympa de voir un petit enthousiaste et pas chochotte. Mais c'est désolant de voir que si tôt, on nous supprime quelque chose d'aussi important pour vivre que l'oxygène, le temps. On récompense cette aptitude à nous passer de temps. Rapide est synonyme de brillant. Je sais bien que si on dynamise pas un peu l'affaire, on peut passer un après-midi au vestiaire. Je sais aussi que beaucoup de militants du slow n'ont jamais vu une pointeuse de leur vie. Nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, chantait l'Égyptien Georges Moustaki. À méditer, 5 minutes chrono.
Bonjour, je m'appelle Vincent et j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment nous avons fait les pendules modernes et les pendules romaines.
C'est Elsa, j'ai 9 ans et demi. Je voudrais savoir comment les hommes ont inventé la pendule. Merci de me répondre.
Vincent, Elsa, pourrez-vous écouter une journée, Bruno Jacomi? Vous êtes responsable des collections au musée des Confluences à Lyon. Oui, je disais qu'on pouvait vous entendre une journée parler des montres et des pendules, tellement ça doit être extraordinaire, merveilleux.
En fait, j'aime bien Elsa qui dit « comment les hommes ont inventé la pendule ». Qu'est-ce qu'on entend par pendule? On va parler d'horloge, parce que la pendule est une horloge particulière, mais très intéressante, c'est celle qu'on invente, je dirais, au XVIIe siècle.
Oui.
C'est Huygens qui, lui, s'aperçoit qu'un balancier, qui se balance comme ceux qu'on voit dans les grandes horloges de campagne, est beaucoup plus précis que tout autre système, si on veut. Et à partir de ce moment-là, on va créer des horloges à pendule. Le balancier, on l'appelle le pendule, qui deviendront après des pendules. Le principe, c'est que tout système de mesure du temps a besoin d'une base de temps. Donc c'est une pendule, c'est un quartz aujourd'hui ou c'est autre chose, mais c'est toujours quelque chose qui fait tic-tac, si on veut.
D'accord.
Et très régulièrement. Alors la question que posait Vincent, c'est les pendules modernes et les pendules romaines.
Ah.
Alors évidemment, quand on a dit ce que sont les pendules, il n'y a pas tellement de pendules romaines. Mais à l'époque, il y a quand même des instruments à mesurer le temps, ce sont les sabliers ou les clepsydres. Les clepsydres, ce sont des horloges à eau. Chacun peut fabriquer une clepsydre chez soi, on prend un verre en plastique, on fait un petit trou dans le fond, on le remplit d'eau, et l'eau va s'écouler tout doucement. Il suffit de graduer, et puis bah, disons qu'on saura repérer une heure ou une demi-heure, quelque chose comme ça. C'est très simple. Et en fait, ces instruments où l'on voit le temps qui s'écoule, au sens propre, va être l'origine de tous les instruments et de l'horloge mécanique qui, elle, va apparaître sur les cathédrales au Moyen-Âge, si on veut. Il y a comme ça trois grandes époques, en gros. Hein. Il y a l'éclepsydre, et ça, c'est à l'époque romaine. Il y a l'horloge mécanique depuis les cathédrales jusqu'à aujourd'hui. Hein. Les réveils mécaniques, ils existent encore aujourd'hui. Et puis, il y a quand même l'arrivée de ce pendule qui va amener une précision beaucoup plus importante dans les horloges mécaniques.
Avant le pendule, entre clepsydre et pendule, comment le temps s'écoulait? C'était un ressort qui se détendait? C'était
Alors, pour mesurer le temps, il y avait ce qu'on appelait le folio. C'est très simple, hein. Il suffit de prendre un bâton, un stylo, oui, quelque chose comme ça, de l'attacher par une ficelle au centre, oui, et de le faire tourner sur lui-même. On va voir qu'il s'enroule dans un sens, puis il va s'enrouler dans l'autre. Puis il va revenir comme ça. Il va se balancer, mais en tournant. Et c'est ça qu'on a sur les horloges du Moyen-Âge. Et
qu'on remonte ?
Voilà. En fait, ce qu'on remonte, c'est soit un poids, soit un ressort. Mais voilà. Alors donc, dans une horloge, pour résumer, on a le folio ou le balancier qui va nous donner la base de temps. On a une énergie, ça va être soit un poids, soit un ressort. Et puis, on a un affichage avec les aiguilles.
Merci Bruno Jacomi. Si j'ai bien compris, ça fait un moment que l'on compte le temps. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, nous saurons si c'est une voix de robot ou une voix d'humain qui dit le nom des stations dans le métro parisien. Nous saurons comment s'organisent les escargots avec un sexe féminin et un sexe masculin et pourquoi il est important de ne pas se mettre à l'abri sous un arbre pendant un orage. Ces questions ont été posées sur notre répondeur au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lucie, j'ai 12 ans et j'aimerais comprendre pourquoi le petit Boussène n'en veut pas à ses parents alors qu'ils l'ont quand même abandonné. Merci, au revoir.
Bonsoir Lucie, Bernadette Bricou, spécialiste de la littérature orale. Lucie se demande pourquoi le petit Poucet n'en veut pas à ses parents qui l'ont abandonné.
Alors c'est compliqué le petit Poucet parce que c'est vrai que c'est une histoire terrible que ses parents qui abandonnent leurs enfants dans une forêt où l'on entend les loups hurler et où ils risquent de se perdre et de mourir de faim tout aussi sûrement que dans cette maison où il n'y a plus de pain pour les nourrir. Mais en même temps, le conte nous dit autre chose. Le conte dit qu'il y a un moment où les enfants doivent quitter la maison, soit d'eux-mêmes, ce qui est évidemment préférable, soit parce que les épreuves de la vie les ont obligés à quitter la maison. Et c'est quand même dans cette épreuve que le petit Poucet va trouver les moyens de grandir.
Ah, il se révèle.
De devenir autonome, de se révéler, de jeter des petits cailloux blancs sur le chemin pour marquer son chemin, de monter en haut d'un arbre pour apercevoir la maison de l'ogre, de triompher d'un ogre grâce à sa ruse. Il y a un moment où l'on doit couper le cordon ombilical et où les enfants doivent partir sur les routes du monde pour devenir des femmes et des hommes à part entière.
Affronter le danger.
Affronter le danger. Alors c'est compliqué, vous voyez, on disait autrefois, il y avait une expression en particulier pour les garçons ou pour les filles. D'ailleurs, on disait, il faut savoir ne pas rester trop longtemps dans les jupes de sa mère.
Oui.
Bon, c'est un moment compliqué que la séparation. En général, les parents les redoutent et ils ont toujours tendance, ou en tout cas aujourd'hui, du moins nous l'espérons, à vouloir que l'enfant parte le plus tard possible. Et c'est quelque chose qu'on appréhende. Mais en même temps, le petit Poucet doit à un certain moment partir dans la forêt pour devenir un homme. Je ne dis pas qu'il en remerciera ses parents, je dis que c'est à travers cette épreuve qu'il révèle sa vraie dimension. Donc, parlons des parents, il peut y avoir aussi des parents indignes, des parents qui, après tout, ou que l'on croit indignes, des parents qui ne font pas ce qu'on attendait d'eux. Mais à travers l'épreuve que nous allons affronter, c'est peut-être aussi ce qui nous permettra de grandir.
La pluie viendra me faire oublier.
C'était Niagara avec un petit peu d'avance sur les vacances, l'amour à la plage.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de l'émission. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Et nous avons des spécialistes de tout.
Oui, bonjour, vous voulez savoir pourquoi il est important de ne pas se mettre à l'abri sous un arbre pendant un orage. Merci, au revoir.
Nous avons proposé ta question à quelqu'un qui s'occupe des orages. Votre métier, ce sont les orages. Raymond Piccoli, puisque vous êtes directeur du laboratoire de recherche sur la foudre et vous êtes astrophysicien.
Alors, se mettre sous un arbre par temps d'orage, c'est dangereux. C'est tout aussi dangereux d'ailleurs que de se mettre à proximité ou sous un point élevé, puisque la foudre adore les points élevés. Les arbres, bon, il faut dire que ce sont des points qui sont régulièrement touchés, parce qu'il y en a beaucoup, bien évidemment. Donc, je le déconseille fortement. Ça, c'est de la prévention. Il y a encore des gens qui se mettent sous les arbres. Donc, ça, il faut vraiment le dire et le crier très fort.
Mais un petit... Parce qu'en fait, c'est dangereux parce qu'il est haut et qu'il attrape et qu'il croise le chemin de la foudre.
Alors, mais si vous avez un champ où il n'y a rien, alors là, l'arbre, ce sera vous, parce que vous serez plus grand peut-être que le buisson qui sera à côté de vous. Hein, mais on va dire que les points élevés, dans ce cas-là, ce sera vous qui jouerez un petit peu le rôle, pas de paratonnerre, mais enfin de cible potentielle avec un facteur de chance assez élevé. Eh bien, il ne faudra pas rester dans cette configuration et plutôt aller chercher un abri, soit un abri en dur, soit par exemple dans une voiture, en prenant quelques précautions quand même. Parce que quoi qu'on en dise, la légende
de la cage de Faraday
ne s'applique qu'en partie. Une voiture reste un bon abri, mais n'est absolument pas un abri total. Chaque année, on a des véhicules touchés. Heureusement, la plupart du temps, ça se passe à peu près bien, mais on a des cas aussi de destruction complète de véhicules.
Ah bon ?
De toute façon, sous un orage, il faut rejoindre un abri le plus rapidement possible. Si on ne peut pas trouver un abri, donner le moins de surface et de hauteur.
Alors vous qui allez observer les orages, vous êtes habillé comment ?
Le plus confortablement possible.
Ah bon ?
Parce que lorsqu'on part travailler sur l'orage, on ne sait pas si on part pour une heure ou pour trois jours. Il peut nous arriver, par exemple, de travailler sur un orage, on va l'attraper, je dis une bêtise, dans le Massif central, et on va le laisser peut-être sur la Belgique.
Ah, ça va si loin que ça ?
Ah, on a parfois des groupes orageux qui vont traverser une partie de l'Europe comme ça. Donc, après, ça dépend de l'intérêt de l'orage, de son activité, etc. Donc, il faut avoir des vêtements, on va dire, confortables, et puis qui vous permettent d'être en sécurité, c'est-à-dire ce sont des vêtements qui sont floqués, qui sont siglés à l'insigne du laboratoire pour être clairement identifiés avec les bandes réfléchissantes au cas où, parce que la nuit peut tomber, on peut travailler de nuit également, et ou dans des conditions de visibilité très très défavorables.
Et pas en chaussures de golf avec des clous ?
Non, on évitera quand même, ni même une armure de chevalier.
Bon, on se met à plat par terre, si je comprends bien, pour être le plus bas possible. Nous avons donc bien compris de ne pas se mettre sous quelque chose de haut quand il y a un orage, sauf bien sûr si ce quelque chose est équipé d'un paratonnerre, comme notre bonne vieille Tour Eiffel, qui en a une dizaine, fabriquée ou rénovée à Limoges, dont c'est la spécialité. Limoges a également fourni des compteurs de foudre. Bon, quand on parle d'orage, on pense aussi aux vignerons qui ont perdu leur récolte, les pauvres. On pense aussi aux voitures qui ont pris feu à Boulogne-Billancourt, n'en déplaise, à Faraday. Faraday, il est français ? Non, Michael Faraday, il est britannique. Et Benjamin Franklin, il est français ? Benjamin Franklin, il est américain. Après l'orage, qu'est-ce qu'il y a ? Le beau temps, oui, non, mais avant le beau temps, entre l'orage et le beau temps, les S ? Non, pas calier, cargo.
Bonjour, je voudrais savoir pourquoi les escargots ont un sexe féminin et masculin. Au revoir, je vous écoute toujours.
Hey, merci, c'est gentil. Jean-Claude Bonnet, qui avait dirigé l'unité hélicicole de l'INRA. L'escargot a un sexe féminin et masculin, c'est une légende ou une réalité ?
Il a les deux orifices génitaux. Ils se relient en un appareil quasi unique après. Donc, on peut dire quand des escargots s'accouplent que ce sont deux mâles qui s'accouplent. Mais ils vont échanger des spermatozoïdes qui vont être stockés dans une poche qui s'appelle un réceptacle séminal.
Oui.
Ensuite, ils vont changer de sexe, vont devenir phase femelle, vont pondre des ovules qui seront fécondés au passage par les spermatozoïdes stockés.
Donc, en fait, ils ne s'auto-fécondent pas.
Nous, on pense qu'il n'y a pas d'auto-fécondation. On ne l'a jamais observé. Voilà.
C'est curieux quand même. Et comment ça se passe ? Qu'est-ce qui est séduisant chez un escargot ? Pourquoi un escargot va voir un autre escargot pour s'accoupler ? Qu'est-ce qui l'attire ?
dans le mucus, il doit laisser une trace comme quoi il est prêt à s'accoupler. Oui. Voilà, c'est certainement un indicatif. Ensuite, pendant la phase d'accouplement, juste avant de s'accoupler, l'escargot va sécréter un dard calcaire et va piquer son partenaire.
Pourquoi ? Donc, pour l'exciter un peu ?
Pour l'exciter, très certainement. Ensuite, donc, l'accouplement va avoir lieu. L'accouplement va durer des heures.
Et est-ce que la couleur joue chez les escargots ? Est-ce qu'ils ont des couleurs ? Est-ce qu'ils sont attirés par les couleurs ?
Bah écoutez, nous, on avait mené des expériences en couleur rouge, mais les boîtes de nuit l'avaient observé bien devant nous. Donc,
ils aiment le rouge ?
Ils aiment le rouge pour l'accouplement. Mais ah oui, par contre, nous, on ne pouvait pas travailler sous une telle lumière.
C'est drôle. Et entre l'accouplement et la ponte des œufs, il se passe combien de temps ?
Alors, c'est relativement variable. Ça peut être de quelques jours à plusieurs semaines. L'escargot a la particularité de pouvoir stocker des spermatozoïdes actifs dans son réceptacle séminal. Vous savez qu'un escargot est capable de pondre son propre poids en œuf. Moi, j'ai observé un escargot de 10 grammes qui pondait 10 grammes d'œufs et la grappe contenait 256 œufs.
Et alors, ils la mettent où, la grappe ?
Donc, en règle générale, ils leur font un substrat. Donc, dans la nature, c'est dans la terre. Voilà, il rebouche son trou avec du mucus et des excrétas, voilà, en règle générale.
Et il attend combien de temps ?
Ça va demander environ 28 jours pour éclore.
Et quand l'escargot sort de son œuf, il se débrouille tout seul, ses parents sont plus là ?
Ah non, 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 il va plus les revoir.
Trop triste. Pour réécouter cette question sur les escargots, ou bien celle sur l'orage, ou bien celle sur le petit poussé ou les pendules, allez sur la page des petits bateaux par franceinter.fr.
Charges. Just before we check you in, let's see here. You left your passport in the mini fridge and a message with the desses. Here the picture isn't, or just a reminder about our policy. Don't leave your mattress in the rain. You sleep on the balcony, okay, did you and your guests have a pleasant day, what a beautiful tattoo that young man had on his face. And oh, will you need a driver out to Philly? Jason Isbell's here as well, and he seemed a little worried about you. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh, baby, don't be alone, this is just my vibe. No need to walk around, no, it's not too bad a climb. Mr. Tillman, for the seventh time, we have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a clientele. No, they aren't running lines, and they aren't exactly. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine. And I'm living on a cloud above an island in my mind.
C'était Father John Misty, Mr. Tillman sur France Inter, où vous écoutez Les Petits Bateaux. Je ne sais pas où vous habitez, je ne sais pas si vous vous déplacez à pied, à cheval ou en métro.
Bonjour, je m'appelle Inès, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir si c'est vraiment une personne qui dit les noms de stations dans le métro ou bien si c'est des robots. Merci, au revoir.
Inès, c'est vrai que c'est une question que nous nous posons. Est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est une machine qui dit les noms des stations dans le métro ? Song Fancam, vous êtes responsable de l'identité visuelle et sonore. Nous y voilà à la RATP.
Bonjour Inès. Alors, la réponse sans suspense, et ce sont des vraies voix. Ce sont des vraies personnes qui prêtent leur voix aux annonces des stations de métro. Et ces voix, en fait, ce sont même des voix du personnel de la RATP. Qu'on a recruté par casting. On s'est inspiré des grandes émissions de télérité comme La Nouvelle Star, The Voice, pour organiser de grandes auditions internes pour chercher, parmi le personnel de l'entreprise, les voix qui pourraient parler dans le métro, et bien sûr le bus, le tramway ou le RER. Donc on a une vingtaine de personnes, avec l'égalité parfaite bien sûr, 10 hommes, 10 femmes, qui se relaient pour enregistrer les noms de ces stations.
Qui les choisit ? Il y a un jury ?
Les voix qui ont été retenues pour être voix, entre guillemets, officielles de la RATP ont été sélectionnées par un jury. Un jury composé de spécialistes de la voix, mais aussi de gens de la RATP, pour avoir un peu le regard de Monsieur Tout-le-Monde aussi. Ouais. Et vraiment, l'idée, c'était d'avoir des voix qui puissent représenter l'ensemble des voyageurs et refléter aussi le personnel RATP. Alors, on a déjà eu des robots à la RATP, c'est arrivé. Au début des années 2000, on a commencé vraiment à sonoriser de façon importante les autobus. Et pour sonoriser 4500 autobus sur 350 lignes, il fallait faire vite. Et il y avait une solution de ce qu'on appelle de synthèse vocale qui avait été choisie à l'époque, qui était beaucoup plus rapide. Mais on s'est vite aperçu que la qualité n'était pas vraiment au rendez-vous, puisque un robot ne sait pas toujours très bien prononcer les noms propres. Donc c'était pas un exercice assez facile. Et on s'est vite rendu compte que c'était assez désincarné, une voix robotique. Et on se dit qu'une voix humaine, c'est toujours plus agréable, plus sympathique, et on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui parle à soi.
Song Fan Kam, on parle du métro et le tramway, alors ça se passe comment ?
Alors, le tramway, ça se passe comme pour le métro, avec le même système, mais on a une ligne un peu particulière qui est la ligne 3 du tramway, le T3, qui circule à Paris, le T3A et le T3B, pour lequel, depuis 2012, en collaboration avec la ville de Paris, il y a une programmation artistique à bord. En fait, évidemment, on va garder le principe des annonces sonores RATP. Et la particularité, c'est que chaque nom de station est accompagné d'un petit motif musical composé spécifiquement pour chaque station. Et les personnes qui annoncent les stations sont en fait des voix enregistrées de 600 personnes différentes. Wow. Et ce sont des voix, bien sûr, de gens de la RATP, mais aussi du grand public et aussi de célébrités. On en peut entendre Jane Birkin, Philippe Manœuvre, Pascal Clark à bord de ce tram. Et d'ailleurs, le tram va être prolongé à la fin de l'année vers la porte d'Asnières. Et justement, on va sans doute rechercher aussi les prochaines voies. Et c'est ouvert aux enfants, puisqu'on entend aussi des voix d'enfants sur le tram T3. Donc Inès, peut-être tu pourrais être voix sur le T3.
Allez, allez, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir passé ce moment avec nous. Rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30. N'oubliez pas de réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr ou bien de les podcaster. Et je vous laisse pour l'heure avec Denis Chessou pour la Tulu, mon petit loup.